comme tous les vendredis matins.
D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici, Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Reculez ! Vous êtes toujours en charge ! Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS se font, ont formé un espèce de toit avec leurs boucliers.
Roulez avec Europe 1.
Oui ! 48-85 ! 48-85 ! Marie-Josée Perec est championne olympique !
Et voilà, c'est SNC qui recommence.
Voici Jacques-Yves Cousteau, que je suis particulièrement heureux d'accueillir en public, en direct aujourd'hui, avec les auditeurs et les amis d'Europe 1.
On va rire, on va chanter et s'amuser.
Bonjour à tous. Le Cisco avec Jean-Paul Roulant, Jacques Roulant, Harold Kay.
Bonjour et bienvenue dans l'émission des enfants d'Europe 1. Comme chaque lundi, chaque vendredi, à 10h30, durant tout l'été, vous y êtes maintenant habitués. Voilà un peu plus de deux semaines, nous vous avions proposé quelques grands moments de la musique sur Europe 1, des extraits de concerts, des inédits enregistrés sur scène ou dans les studios de la rue François 1er par les équipes d'Europe 1. Nous nous étions, si ma mémoire est bonne, séparés en 1965 sur une chanson des Beatles que Paul McCartney avait obligément dédié ce soir-là à l'un des animateurs de la station, Hubert Wayaf, Hubert pour les intimes. Aujourd'hui, comme promis, nous remettons le couvert et poursuivons la partie avec, comme à l'habitude, rien que des exclus, des exclusivités s'entend, et pour se mettre en appétit, car le casting est plus que riche, une chanteuse égyptienne trop vite disparue dans une émission du dit Hubert, ça s'appelait Dans le vent, elle, c'est Dalida, et ce qu'elle interprète, c'est du Beco, et ça rime avec cadeau.
Il y a une chanson de Gilbert Beco que j'aime énormément. Elle s'appelle, c'est une vieille chanson d'ailleurs, Croque mes touffes. Si tu veux, je vais essayer
c'est
de la chanter.
Il y a déjà des mots qu'on ne comprend pas en français. Hein.
Oui, mais chaque fois, j'arrive les chansons ou les mots, je ne les comprends pas.
Ah bon, alors là, toi, là, ça ne te rend pas.
Je pense à celle de Pierre Perret.
Cardinal Maubeuge.
Non. Le tortorboyau, ouais. C'est ça. Non, mais c'est là, j'ai compris. Enfin, elle est mignonne. Ce sont des mots qui n'existent pas aussi, non. Ben non, les autres, c'était des mots d'argot, non,
là,
mais ceux-là.
Tu as une excuse.
Oui.
Bon, on va savoir dans quelle tonalité on le fait. Tu répètes tout.
Attends.
Oui, je crois que ça va. Il ne restera plus pour tout à l'heure.
Ça va, oui, on peut y aller comme ça.
Bon, ça fait. C'est quel ton, ça, pour que j'ai l'air instruit? Merci beaucoup, Guy. Bon, quand tu veux.
Je me rends croque-mitoufle au fond des pantoufles quand tu n'es pas là, et je méfie les filoches comme un fond de poche quand tu n'es pas là. Je périclite, décline en carabobine qui n'en finit pas. Et la vie me semble fuine, blette et filandrine quand tu n'es pas là. Que le temps s'étire. Serpentiluche, je me scaramuche dans le creux des bois. Tous les racontes bouillasses, des grognes filasses ne m'atteignent pas. C'est la pauvre galochade, la maripanade des jours sans gala. Les corbeaux croambulent, c'est la plénibule des oiseaux de proie. Oh, que le temps s'étire. Tire, lire là. la mouche, ton cœur qui fait mouche, trinque avec le mien. Dites, ramine agro biche, comme chat de biche, ronronne matin. Boum, sa tambour éclaironne, sa tonie trutonne, en millions d'éclats. Moi, je t'en ruban bichonne, je t'en polissonne au lit de ma joie. Mon Dieu, que je t'aime.
Ce matin, deux invités. Le premier était déjà là il y a 15 jours, mais il y prend goût et il assure. C'est Marc Exiga. Il a travaillé dans l'équipe de Franck Thénault et Daniel Filippacchi à l'époque de Salut les copains. Il connaît tout ce qui a été diffusé dans les émissions Musicorama par cœur. Et pas loin de lui, en face de lui, très précisément, venu d'Outre-Quiévrain et de la RTBF, la radio belge francophone, où désormais il sévit, où il exerce les fonctions de directeur des antennes, monsieur Yves Bigot, animateur rocker à Europe 1 durant des années.
17 ans, de 1973 à 1990. Et j'ai été engagé pour m'occuper des Musicorama, justement.
Et Dalida, c'est ton truc, Yves ?
Comment dire non ?
Ouais, on peut le dire simplement.
Je l'ai vu à l'Olympia, effectivement. On l'a enregistré à l'Olympia. Ça devait être vers quoi, 1976, quelque chose comme ça. C'était à l'époque du Parole, le duo avec avec Delon. Donc je l'ai vu sur scène. Bah, si vous voulez, moi à l'époque, j'écoutais Led Zeppelin, Little Feet et Jefferson Airplane. Donc Dalida, c'était professionnel, on va dire.
Mais Marc, c'est une vedette un petit peu à part dans la vie de la station. C'était une chouchou.
Ouais, il y a eu des relations privilégiées.
Par exemple,
Lucien Maurice, elle est.
Oui, elle a été la femme de Lucien Maurice, et qui était le directeur des programmes. On peut dire qu'Europe 1 l'a lancé ou pas ?
Ah oui, je pense, oui, vraiment.
Alors c'est sympa de l'entendre chanter et chanter Beko, parce que c'est pas si fréquent. C'est le genre de choses qu'on va entendre souvent d'ailleurs sur
oui,
les antennes.
Oui, c'est un inédit parce qu'elle l'a jamais enregistré, je dirais en studio ou pour une publication discographique. Elle l'a fait uniquement pour les besoins de l'émission Dans le Vent.
Alors Dans le Vent, elle a fait Marc. Oui. Elle a aussi chanté Gainsbourg. Elle a aussi fait un tube de Je suis malade de Serge Lama, etc. C'est vrai que Dalida avait un répertoire qui allait au-delà de l'image d'Épinal qu'on en a gardé, hein, Gigi Lamoroso et compagnie. Quoi.
Dans le vent, on en parlait, c'était l'émission d'où était tiré l'extrait qu'on vient d'entendre. Hubert l'a reprise, mais au départ, c'était bien sûr Michel Cogoni qui l'animait. C'était quel genre d'émission, Marc ? Il y avait c'est un peu particulier. Il y avait des gages notamment.
Ouais, il y avait des gages. Il y avait aussi beaucoup de directs. En ce qui concerne la prestation des artistes et les gages, Cogoni a fait, il a fait faire de la patinette à Claude François, il a mis Sylvie Vartan dans un magasin de mode, enfin, et c'était vraiment totalement spécial et particulier. J'ai aucune autre station n'avait eu cette créativité.
Mais on avait des gages quand on répondait pas à certaines questions.
Ah oui, absolument.
Et c'était des questions de quoi?
Oh, des questions qui n'étaient pas spécialement difficiles, mais qui étaient des trucs complètement incongrus, qui piégeaient les artistes. C'était volontaire, quoi. C'était pour les amener à sortir du cadre habituel de leurs prestations.
Alors, je vous ai promis des choses inédites. Celle qui suit en fait partie. Devinette, qui faisait la première partie du spectacle de Johnny Hallyday à Olympia en 66. Je jette un rapide coup d'œil. Non, bon. Jimi Hendrix est l'un de ses titres fétiches. We'll be right back.
trying to shoot my lady. You know I caught her with another man. I'm going down to shoot my lady. You know I caught her with another man. I heard you shot your lady down, you shot her down. Hey, Joe, I heard you shot your woman down.
Enregistrement fait par les équipes d'Europe 1 qui mérite, Marc, un petit bout de commentaire
sur
Jimi Hendrix. Ben
c'est,
oui.
Alors, c'est la première captation de Hendrix en tant que leader. Il a fait des disques, hein, il a participé en tant que sideman à des disques avec Ike et Tina Turner, avec Curtis Knight, avec King Curtis, qui l'avait un peu découvert.
Little Richard.
Oui, aussi. Mais là, en tant que leader de son propre groupe, qui vient de former, parce qu'il est arrivé des États-Unis il y a à peu près un mois et demi, c'est la première captation du Jimi Hendrix Experience.
Mmh. Yves, tu me disais en écoutant, c'est plus ma langue que Dalida, ça.
Oui, ça c'est ma langue natale, ouais, la musique dans laquelle je baignais. Alors c'est amusant, évidemment, Hendrix c'est incontournable et indémodable. Et en même temps, moi j'ai eu évidemment une histoire personnelle avec cette chanson, et Joe qui l'a pas écrite, hein, parce que j'en ai refait un succès par Willie DeVille bien des années plus tard.
Qui est ce Joe?
Joe, c'est quelqu'un en tous les cas qui a tué sa femme et qui essaie de filer au Mexique et franchir la frontière avant qu'on lui passe une corde autour du cou. C'est ce que disent les paroles en tous les cas.
De quelle notoriété jouit à ce moment-là un type comme Hendrix?
Nul, zéro. Les gens ne savent pas qui il est. Il fait, je crois, 5 dates en première partie de Johnny avec l'Experience. En fait, il se chauffe. Sont les premiers concerts de l'Experience avant même qu'il ne joue en Angleterre. En Angleterre, il avait joué dans des clubs, mais en n'allant jamais avec d'autres gens, pas avec à la tête de son groupe. À ce moment-là, il est totalement inconnu. Et d'ailleurs, le public est un peu surpris plutôt de voir cette espèce de sauvage qui fait la première partie de Johnny. C'est d'ailleurs tout à l'honneur du Johnny en question que d'avoir en fait, pris le risque d'emmener cet inconnu parfait en première partie et de lui avoir fait confiance. Et puis, par ailleurs, d'avoir enregistré Hey Joe. Alors, je ne sais pas techniquement, je ne sais plus s'il l'avait enregistré avant lui, mais en tous les cas, il a publié juste avant.
C'est une source d'inspiration pour lui.
Oui, je pense que... Il y a des images qui existent de cette tournée, hein, qu'on repasse régulièrement à la télé, où on les voit dans un club de Londres extrêmement enfumé. Voilà, ils avaient visiblement une relation assez fraternelle. Il l'avait ramené chez lui plusieurs fois. Donc il y avait un vrai truc entre Jimi Hendrix joue mieux de la guitare, hein,
que Johnny Hallyday
ou que Dalida.
Enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
On évoquait à l'instant ce concert où Jimi Hendrix faisait la première partie de Johnny Hallyday. Les stars bien françaises continuent de tenir le haut de l'affiche à l'Olympia. Il y a Claude François, par exemple. C'est la même année, en 66. C'est une chanson un peu improbable qu'il propose en fin de spectacle à son public. Joe Dassin l'avait inscrite à son registre. Et ce soir-là, c'est Clo-Clo qui la chante.
Je vais les garder, je vais demander à trois petits copains de revenir me rejoindre, voilà. Et voilà où vous êtes, vous interprétez une petite chanson merveilleuse, que nous adorons tous, mais qui ne fait pas partie de mon répertoire. Fasse la tienne. Sans doute, c'était un homme en déroute. Il n'avait ni lien ni place. Et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Sa maison de misère était plus blanche que le coton. Les rues de sable et de terre sentaient le rhum et le melon. Sous leurs jupons de dentelle, Dieu que les filles étaient belles.
Il faut rétablir la vérité et la chronologie. Dassin ne l'avait pas encore inscrite à son registre quand Clocco la chante.
Non, absolument, parce que Dassin l'a fait. Dassin a commencé sa carrière discographique en 67. Et alors après, il a enregistré Guantanamera, qui a été un gros tube pour lui. Mais au moment où Claude François l'interprète, Joe Dassin n'est pas encore dans les hit-parades.
Et Yves, tu disais que Claude François se faisait traduire énormément de chansons.
Oui, il était, c'était d'ailleurs son, sans doute un de ses talents principaux, c'est qu'il passait son temps à aller aux États-Unis, à écouter la radio anglaise et à chercher des, voilà, et à chercher des nouvelles chansons qui se faisaient traduire pour être en avance sur les autres. Parce que dans les années 60, tout le monde faisait des adaptations de succès anglais ou américain, hein, Johnny, Sylvie, Richard Anthony, à peu près tout le monde. Ça n'est en fait qu'après, hein, quand sont arrivés les Polnareff, Dutronc, etc., qu'on s'est retrouvé avec des chansons plus originales. Et Clo-Clo, comme ça, il a adapté un nombre, les Everly Brothers, énormément, Joe Tex, tout le catalogue Stax, énormément de Motown, les Four Tops, il a à peu près adapté la moitié de leur succès, etc. Il était en permanence à l'affût de ce qui allait pouvoir lui donner une longueur d'avance sur les autres, puisque c'était quelqu'un qui avait un sens de la compétition extrêmement aigu.
Mais Guantanamera, ça ressemble à un traditionnel latino-américain, où est-ce qu'il a été pêché ça?
Ben, ça venait d'être un succès aux États-Unis peu de temps avant. Pete Seeger l'avait chanté dans tous les festivals de folk déjà auparavant, et puis ça circulait. Alors là, c'est pas là que Claude François a dû la trouver, mais ça circulait dans tous les milieux de réfugiés politiques chiliens, argentins, mexicains et autres.
L'équivalent qui étaient, des chansons qui... autour du Che Guevara ces dernières années.
Voilà, exactement. Dans une version avec des paroles différentes qui s'appelait Caimenera, dont voilà cette version originale ou pas originale qui a été enregistrée par Robert Wyatt des années plus tard.
On a l'impression que Claude François était un personnage complètement à part dans cet univers, dans cette époque-là, qu'il était aussi peut-être à part dans ses relations avec les radios. C'est
alors vrai. Moi, je peux vous dire quelque chose qui ne se sait peu. Je ne sais pas si Marc le sait. C'est qu'il s'était fait raboter le nez. Et il interdisait, il avait fait disparaître toutes les photos antérieures sur lesquelles il était de profil, et on voyait qu'il avait un très grand nez. Il se trouvait pas beau. J'ai appris ça il y a peu de temps en Belgique par quelqu'un qui avait joué avec lui dans l'orchestre du Sporting à Monte-Carlo.
Ah oui. On faisait pas un personnage à part, à l'époque, au début, vers le Naboo Twist. Quoi.
C'est ça, bien sûr, avant même qu'il fasse son premier disque sous le nom de Coco. Ouais.
Mais il était plus professionnel, j'entends, que les autres. Il avait peut-être plus, effectivement, le souci de son image. C'est ce qui en faisait peut-être un précurseur, un moderne.
En tous les cas, son rêve et sa fascination, c'était pour le showbiz à l'américaine. Oui, et les revues, comme les revues Tamla Motown, etc. Donc, il dansait, il avait une énergie absolument incroyable sur scène. C'était au départ un percussionniste et après un batteur. Donc, il avait le sens du spectacle, le sens de la compétition, puis il voulait que tout soit nickel. C'était un super emmerdeur. Hein.
Alors, on parle d'énergie, s'agissant de Claude François, de l'énergie. Il y en a à voir dans ce qui va suivre, par exemple. C'est un document. L'Olympia et Europe 1 auront reçu les plus grands et permis à leurs auditeurs de les écouter. Et parmi eux, certains ne se sont produits que rarement en France. Je vous demande d'accueillir Monsieur James Brown. Quand tu m'as parlé de ce concert, Marc, tu m'as dit un truc qui m'est resté en mémoire. Le public, je te cite à peu près in extenso, ce soir-là est sorti en chuchotant.
Oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'ailleurs de gens du showbiz, hein, des artistes, chanteurs, interprètes. Mais là, là, ça a été la baigne, quoi. Je crois que les gens sont sortis en se disant ça, ça, on ne saura pas faire, ça. On fera peut-être autre chose, mais ça, non. Et encore, on peut. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant 50 minutes, James Brown enchaîne les titres. C'est-à-dire qu'il laisse pas le temps au public d'applaudir. Il termine un titre sur une pêche de batterie, hop, il enchaîne tout de suite. Donc c'est 50 minutes où on est collé au siège, quoi.
Yves, c'est irréfutable, James Brown. Que dire ? D'ailleurs, voilà.
Se demander pourquoi ce type va devenir une sorte de musicien fétiche, de sexe symbole tout à la fois, enfin tout, et une sorte de symbole d'énergie et de force.
Ouais, le créateur du funk, le parrain de la soul, Monsieur Dynamite, que dire, c'est un performeur absolument incroyable, et dont la musique a absolument pas vieilli, et qui est d'ailleurs échantillonné par les rappeurs à tour de bras. Et qui représente toute l'inventivité, la vitalité et l'authenticité, forme de d'absolue sincérité de la musique du sud des États-Unis.
On se retrouve dans quelques instants avec les enfants d'Europe 1 après les infos. Retour avec les enfants d'Europe 1 dans leur salle de spectacle aujourd'hui avec Marc Exiga et Yves Bigot. On va continuer notre visite des monuments de la musique. Nous voilà à salle Playel en 68, Europe 1 fidèle au poste, c'est le cas de le dire. Le logo de la station est accroché au-dessus de l'orchestre. L'organiste est un certain Billy Preston. Les choristes sont sexy et on les a baptisés les Rennets. Et derrière, le piano vient de s'installer un certain Monsieur Ray Charles.
Now, I want to introduce to you a young man who will now come out and help us out. Ladies and gentlemen, mademoiselle, madame, monsieur, here's my dear friend, Monsieur Billy Preston, to come out and play the organ right here. Billy, where you at? Oh, there you are. Scared me for a minute, baby. Yeah. I like that. And also, while we are at it, I thought it would be very nice to introduce some females.
Amen.
Yeah. I'm so proud to introduce right now, ladies and gentlemen, the internationally known Raylettes right here to help us out. Listen. Said I have you, baby. Did you win my heart? Yes, I did. When I woke up this morning, I found out I was meant to have you. Said in a home mind, I did it that night. Say you are my sunshine.
Don't you dare take it away, girl. Shine away.
Marc, tu étais à ce concert.
Oui.
Ouais. Raconte un peu, parce que c'est...
Grand orchestre. Alors, il avait adopté cette formule-là à partir de 63. Grand orchestre, et puis, au cours de ce concert, d'ailleurs, mais il faut faire un peu saliver. Hein. À un moment, il attaque au piano un morceau qu'il n'a jamais enregistré. Et c'est assez impressionnant parce que tout le banc des saxophonistes, prend un riff, mais naturel. Ils ont peut-être fait une ou deux répétitions comme
ça
pour
s'amuser. Un riff, c'est quoi, Marc ?
Un mouvement musical répétitif. Quoi.
D'accord.
Et puis, à un moment, pof, ils prennent chacun un tambourin, et il n'y a pas un mouvement de tambourin qui est identique. Et c'est un grand morceau. On lui a posé la question de savoir comment il appelait ça après le concert. Il dit, oh, je sais pas. Alors, on lui a dit, on peut mettre ça, So Much Soul. Oh oui, pourquoi pas. Mais grand moment.
Un souvenir, Yves Bigot, là c'est un peu plus tard, c'est à Montreux. Hein.
Ouais, moi je l'ai vu plusieurs fois au Festival de Montreux, deux ou trois, mais notamment un concert, ça devait être en 79, je pense, où il jouait avec Fathead Newman, avec Dizzy Gillespie, avec des souffleurs, et avec un grand orchestre, et où pour le coup, l'intérêt était que sa versatilité incroyable, hein, qui est une de ses plus grandes qualités, il est capable de jouer du jazz, de jouer du blues, de la soul, du rhythm and blues, du gospel, même de la country music. Et là, c'était j'ai vu le Ray Charles vraiment jazzman, c'est-à-dire pianiste, chanteur, et vraiment improvisé avec Dizzy, improvisé avec des musiciens de jazz formidables. Et puis après, revenir tout seul et faire un morceau tout seul au piano, qui est aussi un beau numéro dans un tout autre genre.
Et pour mémoire, le Festival de Montreux et Europe 1 ont été associés pendant pas mal de temps.
Oui, de 1978, je crois, jusqu'en tous les cas, hein, mon départ en 1990. Je ne sais plus si ça a perduré quelques années ensuite.
Ray Charles, magnifiquement incarné au cinéma par Jamie Foxx, dans un film que beaucoup de gens ont sans doute dû voir. Toi qui l'as vu, Marc, oui. T'as été impressionné par la ressemblance, par la performance de l'acteur qui joue
Ray
Charles.
Ah oui, c'est plus qu'impressionnant.
Que tu continues à appeler Raymond, d'ailleurs.
Oui, 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 c'est un peu notre nom de code. Mais oui, c'est plus qu'impressionnant. C'est presque inquiétant d'arriver à se glisser dans les comportements, je veux dire, dans les fondamentales même d'un comportement, les tics, la manière de marcher, la manière de dodeliner de la tête. Oui, c'est inquiétant d'être arrivé à une telle performance. Alors, inquiétant au bon sens du terme, bien sûr, mais c'est prodigieux.
Parmi tous ces grands que tu as côtoyés, parce que tu les as quand même pas mal rencontrés, il y en a un qui est plus impressionnant que les autres ?
Au point de vue des musiciens, au point de vue des artistes ? Ah bah, j'ai une grande passion pour Raymond, oui. Oui, oui.
C'est vrai qu'il vaut le coup. Oui, on était en direct hein, à Montreux tous les soirs. Hein. J'ai pu, moi, c'est le 40e anniversaire cette année du festival. Grâce à Claude Nobs, le fondateur et directeur du festival, j'ai pu voir absolument tout le monde, hein, de Ray Charles à Bob Dylan, en passant par des gens incroyables comme Jay McShane, comme des gens qu'on pensait ne plus jamais voir en Europe, que Claude allait retrouver, puis des découvertes, des gens comme Stevie Ray Vaughan qui faisait son son premier concert sur le sol européen. Enfin, c'est un endroit absolument magique. On était en direct tous les soirs de 20h à 22h30.
Eh oui, comme quoi tous les auditeurs d'Europe 1 ont pu en profiter des Musicorama jusqu'à Montreux.
On en parle encore.
On parlera. On parlera tout à l'heure du Festival de Bourges. Alors, vous avez pensé que je le fais exprès. Vous aurez parfaitement raison d'ailleurs. La suite, c'est pas un monument, c'est un groupe monumental, un grand ensemble, un volcan toujours actif. Le concert sera diffusé en direct du Palais des Sports sur Europe numéro 1 et ce soir-là, les infos de 22h30 seront reportées un peu avant minuit. Je suis pas sûr d'avoir à vous les présenter. Reconnu les Rolling Stones, près de 40 ans après, toujours là. Quelle recette, Yves?
Je pense que les gens qui ont ça dans le sang aussi profondément qu'eux durent souvent plus longtemps que les autres. Je crois que le proverbe, je sais pas s'il est chinois, africain ou peut-être creusois, c'est plus on a des racines profonde et plus on peut écarter les ailes loin.
Alors là, en l'occurrence, les racines, c'est Chuck Berry.
C'est sûrement creusois.
Marc, les racines, c'est Chuck Berry, là, dans le morceau qu'on vient d'entendre.
Ah oui. Mais ils aimaient bien aussi d'autres, je dirais peut-être un peu plus blues. Je pense que ils ont fait des versions différentes du Little Red Rooster de Sam Cooke qui sont intéressantes. Donc Chuck Berry, oui, mais Chuck Berry, il est un peu à la base des Beatles et des Stones. Les deux, d'ailleurs, les deux groupes ont reconnu que c'était vraiment un des personnages qui les avait le plus formatés.
C'est lui qui a écrit les tables de la loi, en tous les cas, de la composition du rock, paroles, musique et riff de guitare.
Mais c'est un groupe dont Jagger a su garder la cohésion. Il est quand même aussi responsable dans le bon sens du terme.
Pas plus que Keith Richards ou Charlie Watts, parce que pendant les années 80, Jagger, il avait la tentation d'aller rejoindre un peu les Michael Jackson, Tina Turner et autres un peu vidéostars de l'époque. Et c'est si le groupe existe encore aujourd'hui, c'est Keith qui a décidé qu'il allait ramener Mick Oberkaï et que les Rolling Stones continueraient à exister. Je veux dire, à un moment, Mick, il n'a plus cru dans les Rolling Stones.
Et donc, toutes les tentatives qu'il a fait en solo, d'ailleurs, n'ont pas eu les résultats qu'il en espérait. Hein.
Non, pas du tout. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est ce que dit Keith Richards de manière un peu à la fois vacharde et amusée et tendre en même temps, hein, puisqu'ils se décrivent comme étant des frères jumeaux de mères différentes. il dit pourquoi Mick Jagger rêve d'être autre chose alors qu'il est le glorieux chanteur des Fantastic Rolling Stones.
Europe était de son époque ou en avance sur son temps en retransmettant un concert comme celui-là?
Europe, c'était la radio de référence, hein, absolument pour tout le monde et pour tous les gens qui aiment la musique depuis quasiment son origine, hein, depuis pour ceux qui aiment le jazz à travers Salut les copains, les musicoramas et après les retransmissions des festivals à Montreux, au Printemps de Bourges et ailleurs. Je pense que ça a toujours été une radio qui a profondément marqué et qui a même fait découvrir un nombre absolument incroyable d'artistes aux gens qui aimaient la musique. Et qui aimait la musique justement de manière très large et communique, ce qui est ce dont vous faites la preuve, Marc, ce matin, hein, de Dalida à Jimi Hendrix.
Retour avec les enfants d'Europe 1. On vient d'entendre les Rolling Stones et c'était en quelle année, Marc, déjà?
70 au Palais des Sports.
Et un an plus tard, Europe va remettre ça avec un couple de monstres sacrés, parfois stupéfiants, à plus d'un titre d'ailleurs. Retour à l'Olympia, Ike et Tina Turner. Profitez bien ce que vous allez entendre à 35 ans. C'est d'une rare jeunesse.
Right now, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. Well, now, I'd like to do that for you. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice, rough, proud. And we're going to do the beginning of this song, and we're going to do it rolling, easy, rolling, and then we're going to do the finish,
rolling on the river.
It's the way we do, Proud Mary.
Rolling,
rolling, rolling.
Tina Turner, un couple explosif, bête de scène, couple explosif à la ville et à la scène.
Tous les temps du terme, Marc, malheureusement.
Oui. Parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Ils chantaient très bien ensemble, mais parfois ils vivaient de manière un petit peu violente.
Bah oui, Tina a écrit un best-seller, I, Tina, par la suite, qui a été tourné, adapté d'ailleurs au cinéma, qui raconte voilà les sévices que Ike Turner lui faisait subir à elle et à leurs enfants.
Et Ike, lui, très bon musicien, excellent chef d'orchestre, d'après ce que tu dis.
Ah oui, très impressionnant, et puis qui est quelqu'un qui est tout à fait à l'origine du rock, puisque c'est lui qui a enregistré un des morceaux qui est considéré comme peut-être un des premier morceau historique de rock. Alors il lui est pas crédité à son nom, parce qu'à l'époque dans les orchestres c'était le chanteur qui avait son nom sur la pochette et pas le chef d'orchestre. Donc sous le nom de Jackie Brenston, un morceau qui s'appelle Rocket 88, qui en fait est l'œuvre de Ike Turner, évidemment dont la place un peu dans l'histoire de la musique a été minimisée par évidemment son ses plus mauvais côtés humains, et il est en train d'être réhabilité maintenant petit à petit, à mesure que voilà on s'estompe un peu l'émotion voilà causée par les mauvais traitements qu'il avait fait subir à l'impressionnante Tina.
Oui.
Mais moi je ne les ai jamais vus sur scène, mais Marc les a vus.
Le concert là, tu y étais, Marc.
Oui. Oui, ils sont venus à Paris, c'était la seule fois d'ailleurs. Il y a eu un seul concert, parce qu'ils venaient du Midem.
C'était un Musicorama, ça.
Absolument. Et c'était leur première apparition en France, au Midem, et 48 heures après, ils étaient à Paris pour un seul concert.
Et tu disais, scéniquement parlant, il n'y a peut-être pas mieux avec James Brown.
Pour moi, c'était vraiment les deux performeurs, James Brown d'un côté, Ike et Tina Turner Review de l'autre, c'était le haut du tableau, quoi. C'était ce qu'il y avait de plus prodigieux sur scène à cette époque-là, oui.
Sans transition, est-ce que vous aviez une version préférée du Bebop Lula, l'un et l'autre, Yves?
Oh ben moi il y a d'abord l'original par Gene Vincent, il y a vraiment rien à lui reprocher, hein, c'est un chef-d'œuvre absolu, tout est dit, il y a absolument rien à ajouter.
Est-ce que...
À ça je crois me souvenir d'une version par Vince Taylor que j'avais entendu je ne sais plus où, qui était pas piqué des hannetons non plus.
Hein. Et t'étais pas à Cambrai du côté de 1972 par hasard?
Non, j'ai fait des bêtises mais ailleurs.
Ouais, c'est dommage parce que t'aurais entendu une autre version, celle-là elle est signée Michel Polnareff.
All the tears. She is a woman that I know. She don't mind love. Be the blue that she's not there. Be the blue that's starting there. Be the blue that.
all the tears. She is a woman that I know. She is a woman that I love.
Version complètement inédite, surprend un petit peu, non ?
Non, parce que je sais que... Enfin oui, je suis ravi de l'entendre, d'abord. Mais je me souviens que Michel Polnareff, à l'époque, il terminait effectivement ses spectacles au piano par un medley, il faisait All the Shaking Going On de Jerry Lee Lewis aussi, et vraisemblablement un troisième morceau. Enfin,
Jenny.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ah, j'ai vraiment de la chance de vous avoir tous les deux. Hein. Ils voilà. Se complètent à merveille.
C'est ça, mais ils pouvaient tout se permettre, Polnareff. C'est un mec qui avait tellement de talent. Alors, je parle au passé, simplement, parce que on n'a pas eu beaucoup de ses nouvelles dernièrement.
Mais il revient là, il paraît.
Ah, il revient à Bercy, ouais, pour une dizaine de shows. Je sais qu'il fait 5 forêts nationales à Bruxelles. Et ça fait 34 ans qu'il n'a pas chanté à Paris, ni à Bruxelles d'ailleurs.
C'est un personnage à part.
Ouais. C'est un personnage.
Mais il faut juger comment, le musicien, le parolier, l'homme de scène, éventuellement le caractère.
Ah ben, c'est un original, on va dire, mais original à tous les titres, c'est-à-dire c'est aussi un compositeur formidable, c'est un chanteur, il a une voix et des facilités vocales exceptionnelles, un arrangeur formidable, un vrai visionnaire, et puis quelqu'un qui avait une image de lui-même, et puis après...
Un musicien aussi, non ?
Ah oui, c'est un super bon musicien, bien sûr. Je pense qu'il y a un moment, simplement, il a perdu le fil de sa propre histoire. Alors, est-ce qu'il va le renouer maintenant avec ce retour ? On peut toujours l'espérer. Hein, il y a des gens qui...
Il y a l'envie, en tout cas.
Voilà, et il y a des gens à son âge hein, qui sont capables de faire des disques formidables, comme Bob Dylan ou Neil Young ou Paul Simon ou d'autres le montrent régulièrement tous les 2 ou 3 ans.
Personnage original. Bah tiens, puisqu'on parle d'originalité, il y avait sur l'antenne d'Europe 1 une émission au concept assez original, c'est le cas de le dire, et qui a produit des choses tout à fait surprenantes. Une émission qui était animée par Jacques Ourévitch et qui était baptisée 5, 6, 7. C'était quoi l'originalité de cette émission ?
Eh bien, on faisait venir les chanteurs en direct pour qu'ils interprètent les chansons de leurs concurrents. Et dans certains cas, alors ils utilisaient aussi le playback de la vedette dont ils allaient interpréter la chanson, mais il y a eu aussi avec le support d'un petit orchestre, à peu près 5-6 musiciens, ou alors même des interprètes qui s'accompagnaient eux-mêmes et qui chantaient les chansons des autres.
Mais ils les choisissaient parce que ça pouvait donner des résultats tout à fait aléatoires, non ?
Il y avait les deux, parce que dans certains cas, c'était, je dirais, un peu orienté par Jacques Ourévitch, le fait de leur faire chanter une chanson à laquelle ils n'auraient peut-être pas pensé, mais finalement, ils se prêtaient de très bonne grâce à cet exercice.
Yves, 5, 6, 7 ?
Oui, absolument. Alors moi, j'arrivais dans la maison au moment où cette émission connaissait son plus grand succès. Elle s'enregistrait... Enfin, où elle était en direct un peu plus loin, là, dans le couloir, à 7-8 mètres de là où nous parlons. Mais alors, moi, j'ai assisté à quelque chose d'historique dans 5-6-7, et je ne suis pas certain que Jacques Ourévitch sache encore aujourd'hui qu'il a assisté et qu'il a été le responsable d'un moment absolument historique dans cette émission. C'était l'époque où les concerts à Paris, ils étaient annoncés, on prenait des billets, mais ils n'avaient pas nécessairement toujours lieu. Parce qu'à l'époque, il y avait des manifs, il y avait les salles n'étaient pas forcément sécures, etc. Et donc, Genesis devait chanter au Palais des Sports.
De groupe, ouais.
Et je ne sais plus pour quelle raison, le groupe n'a pas pu se produire au Palais des Sports. Donc ils étaient furieux, ils traînaient là avec moi dans les couloirs, ils ne savaient pas quoi faire. Peter Gabriel était de très très mauvaise humeur. Et... pour occuper, puisqu'il venait pour un musicorama européen au Palais des Sports, bon, donc on les avait un peu sur les bras, et pour occuper donc Genesis, on les a amenés participer à l'émission de Jacques Ourévitch, et Peter Gabriel était de super mauvaise humeur, donc il y a un moment il est parti, il a disparu, on savait plus où il était. Et c'est donc là, la première fois que Phil Collins s'est transformé en chanteur de Genesis, pour reprendre un morceau qui s'appelait « More Fool Me », qu'il a chanté avec Mike Rutherford, qui l'accompagnait à la guitare 12 cordes. C'était un morceau qui était sur l'album Selling England by the Pound. Mais c'est ici, à Europe 1, que Phil Collins est devenu,
que le batteur est devenu chanteur.
Voilà, le chanteur de Genesis à la place de Peter Gabriel.
Alors ça donnera aussi d'autres choses, comme Barbara chantant Julien Clerc. Et ça fait d'ailleurs tout drôle de savoir, comme tu le disais Yves, que ça a été enregistré tout près du studio où nous nous trouvons actuellement.
Ce n'est rien, tu sais bien que le temps passe. Ce n'est rien, ce n'est rien. Elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était en lui un beau matin. Et c'est comme une fleur nouvelle et qui s'en va sous la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu sais bien que le temps passe. Ce n'est rien, ce n'est rien. Elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, comme un bateau qui revient, ça paraît bien. Il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qu'était ton lit un beau matin. Et c'est comme une fleur nouvelle qui refleurit sous la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Tire d'elle en emportant le duvet qu'était ton lit un beau matin. Mais ce n'est qu'une fleur nouvelle qui se perd sous la grêle et qui s'en va sur l'océan. Tu sais bien que le temps passe et ce n'est rien, ce n'est rien. Tu sais bien que le temps passe. Ce n'est rien.
Les paroles d'Étienne Rodagil, la musique de Julien Clerc, la voix de Barbara, tout ça fait un mélange plutôt bien réussi, Yves.
Ouais, ça lui va très bien, à son phrasé, à sa manière de chanter comme ça un peu en se promenant sur,
quelqu'un que t'as bien connu,
sur la musique. Je l'ai pas très bien connu, mais j'étais le patron de Mercury, qui était sa maison de disques quand elle a enregistré son dernier album. Et c'était quelqu'un de très touchant. Elle doutait beaucoup, elle n'avait pas enregistré de nouveau répertoire depuis assez longtemps, mais elle était vraiment très gentille. Elle m'appelait régulièrement comme ça pour savoir si tout allait bien, si on me ramenait bien ses chansons au fur et à mesure. Comme elle doutait beaucoup, ça a été un processus assez long, hein. Il a fallu pas loin d'un an et demi pour enregistrer cet album. Ça avait coûté très cher à l'époque, puisqu'elle était en studio tout le temps. Et puis elle m'appelait parfois pour des choses tout à fait étranges, hein, qui avaient rien à voir ni avec son business ni avec la musique. Elle voulait savoir s'il fallait qu'elle signe telle pétition ou si. Et puis on avait organisé, je pense. Alors, je crois la dernière fois où j'ai dû lui parler, c'est on avait organisé un duplex parce qu'elle ne pouvait pas venir aux Victoires de la musique. Parce qu'elle était déjà malade, on avait organisé un duplex entre Zazie et elle quand elle a reçu donc Barbara, une victoire de la musique pour cet album, donc peu de temps après sa sortie.
Et Marc, ça a été avec Europe 1 un petit peu une histoire d'amour, donc il y a eu beaucoup de choses.
Une vraie. Et avec la complicité d'un personnage merveilleux qui était Jean-Serge, qui a beaucoup compté dans l'installation pour sa, je dirais, mise en conditions chaleureuses des artistes. Et Barbara a enregistré d'ailleurs beaucoup de titres au cours de ces rendez-vous qui sont le reflet des influences qui l'ont amené à sa carrière. Et donc elle a privilégié la station au niveau, je dirais, de l'évocation ou bien de ses pensées, de ses convictions, avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de chaleur.
Et un concert qui marquera à Bordeaux.
Oui, alors elle a fait ce concert, c'était dans le cadre de l'émission Campus avec Michel Lancelot, parce qu'il y avait un problème pour les étudiants de Bordeaux, c'est qu'il n'y avait plus de transport en commun, très très tôt dans la nuit, je crois à partir de 21h, un truc comme ça, donc ils avaient téléphoné à la station, ils avaient appelé Michel Lancelot en disant c'est quand même moche, on peut pas aller au concert, parce que sans ça on rentre à pied. Et Barbara spontanément a dit ben moi je vais aller faire un concert à Bordeaux justement pour les étudiants, et elle s'est déplacée et Campus l'a enregistré. On a publié le disque d'ailleurs qui est très chaleureux.
Marc Tronchot.
Pulpeux comme la pêche.
Retour avec les enfants d'Europe 1, on évoquait l'émission 5, 6, 7 de Dourevitch. Vous allez certainement aimer à nouveau. Si je dis Aline, vous me répondez nécessairement Christophe, et c'est une réponse gagnante. Sauf quand il invite pour les refrains un autre interprète, et ce soir-là, à Europe 1, duo inattendu dans l'émission 5, 6, 7, Christophe et Mac Brandt.
J'avais dessiné. Qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cette orage, elle a disparu et je criais. Je suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Que ce doux visage, comme une épave, sur le sable mouillé.
C'est donc Christophe et Mike Brandt, pièce de collection, pas forcément pièce à collectionner.
Ah ben pour la curiosité en tous les cas, parce que c'est très inattendu, Marc, d'entendre Christophe et Mike Brandt, a priori qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble, je pense, ni dans ce qu'était leur goût personnel, ni même dans leur style vocal, ça s'entend.
Mais ça, c'était le miracle de cette émission.
J'ai beaucoup de mal de parler de Christophe, c'est mon copain, et il est fou comme un lapin, mais il a un talent absolument dingue.
Je voudrais qu'on parle un petit peu, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, je voudrais qu'on parle un petit peu du Printemps de Bourges. Comment est née cette association, déjà, comment est née ce Printemps de Bourges? C'est les années 80, ça.
Oh, c'est la fin des années 70 même. C'est vraiment né sur la vague, je pense, de la chanson française, on va dire un peu à l'époque marginale ou marginalisée par les médias. Hein. C'est né un peu autour de la bande de Jacques Higelin, François Béranger, Bernard Lavilliers, des artistes comme ça, qui faisaient pas mal de monde en concert, en spectacle, mais qui à l'époque ne passait quasiment pas sur les radios, même assez peu à Europe au début, parce que moi je me souviens quand on commençait à les programmer avec Michel Abraham, Claude Brunet, Jean-Pierre Abraham, Maxi, je salue ceux qui sont toujours là, et ceux qui nous écoutent, on était vraiment les premiers et quasiment les seuls à les programmer, sans doute avec Jean-Louis Foulquier à Inter, mais c'est né comme un, je pense, un festival de la chanson française marginale.
Mais c'était un peu happening, non ? Comme ambiance ?
Ah, c'était, oui, c'était les babas des années 70. Oui, ça sentait le patchouli, la merguez et les patogas.
Et Jack Lang a beaucoup aimé, non ?
Jack Lang était assez proche de Daniel Colling, donc qui est le patron du Printemps de Bourges, puisque c'est ensemble qu'ils ont lancé, une fois que Jack Lang a été ministre de la Culture, les programmes Zénith, hein, toutes les salles de spectacle en France. Parce qu'il faut rappeler qu'avant les Zéniths, les salles de spectacle en France, à l'exception de l'Olympia ou de la salle Pleyel, par exemple, qui était une salle qui était prévue pour la musique classique, il y avait très très peu de salles. Les gens se produisaient dans des palais des sports, dans des hangars, dans des parcs des expositions, avec un son absolument épouvantable et des conditions qui étaient à la limite pas humaines. Il fallait vraiment qu'on aime beaucoup la musique pour se rendre dans des endroits pareils.
T'as quelques bons souvenirs de ces festivals?
J'ai évidemment plein de très bons souvenirs du Printemps de Bourges. Alors, notamment, j'y ai interviewé François Mitterrand sur le rock et sur la musique. C'est la seule et unique interview qu'il ait jamais donnée à ce sujet. J'ai quasiment risqué ma vie parce que je dois vous dire, j'ai abandonné mon poste pour pouvoir faire cette interview. C'est-à-dire que j'ai laissé Marc Fréjean dans le quart d'Europe 1, on était en direct, pour aller, c'était à l'entracte d'un concert de Bernard Lavilliers, et Nicole Higelin, qui était l'attachée de presse du Printemps de Bourges, me dit, tu as une opportunité d'interviewer François Mitterrand, président de la République, juste à l'entracte. J'étais en direct sur Europe en même temps. Donc je laisse à Marc des bandes avec des trucs enregistrés. J'avais pré-enregistré des annonces pour que personne, les auditeurs, ne se rendent pas compte que j'étais pas là. Et je pars avec le Nagra, donc le magnétophone sur le bras. Et François Mitterrand fait une petite conférence de presse comme ça. Et à la fin de sa conférence de presse, qui doit durer 10 minutes, il me prend par le bras et il me dit « Venez, allons par là ». Je veux dire, il ne lui avait pas échappé. Et puis Nicole avait organisé le fait qu'il gagnait Europe 1 et Libération d'un seul coup. Donc ça faisait une interview dont il savait qu'elle allait être bien exposée. J'ai fait exactement 15 minutes d'interview parce que c'était la durée précise de la bande de Nagra. Tous mes confrères se jetaient sur moi, m'ont arraché des cheveux. Marc Garcia, qui était à Europe 1 avec moi, m'entourait à un moment. Mes pieds ne touchaient plus terre. C'est-à-dire que Marc me soulevait, les gens étaient de tous les côtés pour passer leur micro, leur caméra, etc. Mais je savais qu'il fallait que je ne perde jamais son regard pour que aucun autre ne puisse placer une question et que donc j'ai mon interview exclue dans la continuité. Quand le quart d'heure a été terminé, donc j'ai remercié le président de la République, le concert de la Villiers allait reprendre. Je suis parti en courant, on devait être à pas loin d'un kilomètre de là, donc totalement essoufflé pour revenir à l'antenne.
Avec le Navarre qui pèse quand même son poids. Oui.
Exactement. Sauver Marc qui me disait j'ai plus rien, je sais plus quoi faire, etc. Et tout de suite après, je me souviens le flash et les titres du journal de 22h. Tout de suite après les titres de 22h, on a diffusé in extenso la bande de Nagra. Et j'avais évidemment une angoisse horrible tout ce temps-là. C'était est-ce que ça enregistre? Parce que voilà,
On a tous cette angoisse-là. Alors, effectivement, Bourges, on l'a tous eu.
Voilà. Par ailleurs, à Bourges, j'ai vu plein de musiques formidables. Je me souviens évidemment du notamment lors du concert de Johnny Clegg, au plus fort de la vague Johnny Clegg, et à l'époque où son spectacle avec ses danseurs était quelque chose d'absolument exceptionnel. J'y ai vu Gainsbourg, j'y ai vu évidemment des tonnes et des tonnes de gens, et j'y ai vu U2 en 83 en plein moment du succès de New Year's Day, etc. Voilà.
C'est vrai qu'on pouvait entendre des choses sympas à Bourges et encore une fois souvent inédites à l'instar de cette interprétation, je ne sais pas s'il faut la qualifier de rarissime, interprétation de River Deep Mountain High, et c'était Alain Bachung.
was a little boy, I had a rag doll. The only thing I ever owned. Now I love you just the way I love the grand dog. I love it still, I love it strong. And it got stronger, babe, if you will. And it got bigger, babe.
C'est mieux que la Starac, non?
Ah oui, ça c'est clair, oui, c'est clair. Alain Bashung, de toute façon, c'est quelqu'un qui adore la musique, qui adore le rock, qui a un respect pour ça, ça s'entend. Hein. Absolument exceptionnel.
Tu te souvenais de cette...
Non, je me souvenais pas, et pourtant, en 1983, c'était une année où on était à Bourges, où j'étais à Bourges en direct. C'est l'année, justement, où on avait diffusé le concert de U2.
Bon, quels talents vous font plaisir à tous les deux aujourd'hui, Marc?
Dans la musique, moi j'aime beaucoup Jamie Foxx.
Jamie Foxx. Yves.
Ah, moi, si vous voulez que je vous donne un indice, j'ai donné à François Claus l'autre jour
l'album correspondant des... d'Europe 1 à Marseille.
Voilà l'album, parce qu'il me disait c'est qu'est-ce que t'écoutes en ce moment. Je lui ai sorti de ma poche l'album des Flaming Lips, un groupe américain absolument extraordinaire, un peu psyché, un peu funk, totalement délirant. C'est quelque part entre Pink Floyd, Zappa, Prince. C'est fascinant. Mais moi, je continue d'adorer les nouveaux disques de Dylan, de Neil Young, de gens comme ça.
Il va falloir qu'on se sépare, c'est passé vite. Allez, pour le final, un morceau enregistré rue François 1er, c'était dans l'émission Top Live, où, pour la petite histoire, les interprètes, Marc, arrivaient tôt pour répéter, parce que c'était du direct.
Il y avait une volonté de la station d'essayer de produire la meilleure balance sonore possible, et donc il y avait répétition l'après-midi avant que les artistes ne passent en direct le soir. Et c'est ce qui permet, quand on compare évidemment entre les enregistrements que les techniciens étaient obligés de prendre, je dirais, en direct, et là, une mise au point bien répétée, de se rendre compte qu'il y a une qualité sonore qui est, je dirais, mais rigoureusement comparable et concurrentielle avec celle des enregistrements en studio.
Fredericks, Goldman, Jones, c'est en 94 dans le Top Live, il suffira d'un signe.
1, 2, 3, 4.
Marc Exiga, on rappelle que tu as réuni les grands musicorama dans une collection de CD facile à reconnaître. Le logo européen est dessus. Merci Yves Bigot. Et rendez-vous pour une autre émission très vite, puisque les enfants d'Europe 1, c'est chaque lundi, chaque vendredi, entre 10h30 et midi. Salut! C'était Jean-Jacques Goldman en live, enregistré dans les studios d'Europe 1. Et on se retrouve pour d'autres documents comme ça exceptionnels avec Marc Tronchot, vendredi matin à 10h30. Mais demain, nous serons là, nous, à 9h.
À demain matin, Marc Menant.